L'année 2015 représente une étape importante pour la communauté internationale des sols. Lors de sa 68e session, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré l'année 2015 « Année internationale des sols » et a désigné la FAO pour sa mise en œuvre. Cette année vise à accroître la sensibilisation et la compréhension de l'importance des sols pour assurer la sécurité alimentaire et permettre à l'écosystème de remplir ses fonctions essentielles. Nous sommes aujourd'hui avec M. Lamurdia Ciombiano, spécialiste des sols, représentant régional adjoint pour l'Afrique et représentant de la FAO au Ghana. Monsieur Ciombiano, bonjour.
Bonjour, madame.
D'une manière générale, les sols sont-ils bien préservés dans la région ?
Le continent africain est caractérisé par une richesse énorme en termes de sol, en termes de profondeur, de fertilité, de fonctionnement, mais aussi par une grande diversité des types de sols qu'on a, qui vont des sols de forêt aux sols de désert. Et une des caractéristiques qui distingue ce continent aussi des autres, c'est le fait que la communauté internationale des sols reconnaît que c'est un continent où les sols sont très vieux. On a des sols qui datent de millions d'années. Il y a les sols qu'on appelle les sols de Bar dans la zone du Togo et du Bénin qui sont connus, et des sols très profonds et qui datent de millions d'années, pour lesquels des types d'aménagements spécifiques doivent être adaptés. Donc on est dans une situation où, avec cette richesse, cette diversité, on a des sols qui sont très bien préservés dans les zones forestières comme le bassin du Congo ou dans certains parcs forêts aménagées. Mais de l'autre côté, on a des sols qui sont dégradés du fait, par exemple, d'une agriculture extensive qui n'utilise pas souvent les méthodes les plus appropriées. On a les sols dans les milieux désertiques qui sont des sols qui ont leur propre fonctionnement, considérés comme dégradés, mais qui ont leur potentiel pour la pratique de certaines activités telles que, par exemple, l'élevage, etc. On a une situation mixte avec des zones très vertes et des zones moins vertes en termes de niveau de dégradation. Et il est reconnu que malgré cette situation mixte qui parfois tranche avec l'idée qu'on se fait de l'Afrique de l'extérieur où on pense que tous les sols sont dégradés. Je vous donne juste l'exemple de l'Éthiopie. Lorsqu'on parle de l'Éthiopie de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a que des sols dégradés, la sécheresse, etc. Mais quand vous y allez, vous verrez par exemple dans la partie sud, vous avez des sols forestiers qui est la zone native du café et vous ne pouvez même pas vous imaginer que vous êtes en Éthiopie. Et il est globalement reconnu aussi que 65% des sols arables qui existent à l'heure actuelle dans le monde sont présents en Afrique, ce qui aussi traduit un niveau de préservation assez intéressant.
Peut-on dire que les sols constituent une priorité en Afrique ?
En général, les humains considèrent le sol comme quelque chose de donné, c'est un acquis. On marche dessus, on produit, on l'utilise, mais on n'est pas suffisamment conscient que c'est un être vivant. C'est quelque chose dont il faut prendre soin. Et il y a quelques rares groupes ethniques qui sont arrivés au niveau de la conscientisation de l'importance du sol jusque dans leur salutation. Il y a un groupe, par exemple, en Éthiopie, qui, lorsqu'ils se rencontrent, la première phrase qu'ils prononcent, « Je souhaite que vos sols soient fertiles ». Le second élément, c'est même dans les formations, au niveau des agronomes, au niveau des forestiers, même de nombreux utilisateurs des sols, que ce soit les paysans eux-mêmes. Parce qu'en général, aujourd'hui, la technique qui a été mise en place, par exemple, si vous prenez le cas des engrais, on détermine la quantité des engrais à mettre dans un sol en fonction des besoins de la plante qu'on veut utiliser. Mais on ne les définit pas en fonction de la capacité du sol à fixer ces engrais. Si vous mettez, par exemple, 150 kg d'engrais ou 400 kg d'engrais, comme c'est le cas parfois en Asie, et que le sol ne peut fixer que 50 ou 60, ça veut dire que le reste ira soit sous l'effet du ruissellement ou sous l'effet de l'infiltration au niveau des nappes et des rivières conduisant à des pollutions.
Quelles sont les problématiques principales relatives au sol ?
La dégradation de la fertilité des sols, la dégradation des terres, conduit parfois à des pertes économiques de plus de 5% du produit intérieur brut. La diminution de la fertilité des sols est liée à ce qu'on appelle l'utilisation minière des sols. Ça veut dire, par exemple, on produit du sorgho, on produit du maïs ou du mil, on exporte les récoltes, on exporte tous les résidus, et en retour, on ne met pas suffisamment d'engrais ou de matière organique ou de biomasse ou de compost pour compenser cette exploitation. Donc ça, c'est quand même un élément important. Le troisième aspect, c'est lié aussi au changement climatique. avec la désertification, le fait que la végétation est détruite, ça conduit à un changement même au niveau du fonctionnement des sols, en termes d'exposition au soleil, en termes de réduction de la biodiversité. Donc tout ça, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte, y compris, par exemple, la pollution des sols en milieu urbain et au niveau des zones d'exploitation minière. Vous voyez en Afrique, que ce soit au niveau du Congo démocratique, du Ghana ici, ou des pays du Sahel comme le Mali ou le Burkina, il y a beaucoup d'exploitations minières à grande échelle, mais aussi par des petits exploitants. Et la façon d'exploiter, de creuser dans le sol en détruisant la végétation, les produits qui sont utilisés comme le mercure, tout ça, ça conduit à des pollutions au niveau des sols et des rivières. Au niveau urbain, les déchets plastiques, etc., tout ça, ça conduit à la pollution des sols. Et globalement, tous ces facteurs-là réduisent la capacité de production des sols et aussi la capacité de réponse de ces sols-là pour nous donner les services environnementaux dont nous avons besoin.
À quoi sont dus ces problèmes que vous venez d'énoncer ?
Les pressions en termes de demande de production, en termes de ressources qu'on veut prendre au niveau des forêts, en termes de ressources au niveau des rivières, réduisent sa capacité de fonctionnement et aussi de réagir pour ne pas céder à la dégradation. Et ça conduit souvent à des niveaux de dégradation, soit du fait de l'érosion éolienne ou du fait de l'érosion hydrique, qui sont énormes et qui ne compensent pas la capacité de régénération, par exemple, du sol. Beaucoup de pays ont fait des études de leur sol, ils connaissent un peu les caractéristiques, etc. Mais depuis lors, il y a eu une baisse dans la capacité vraiment de faire la cartographie des sols, de suivre leur évolution, d'identifier là où sont les problèmes et avec le changement des habitudes culturelles, avec la modernisation, quels sont les grands défis qu'on doit prendre en compte pour une meilleure connaissance des sols, mais aussi pour prodiguer des conseils plus appropriés dans leur gestion.
Comment pourrait-on résoudre ces problématiques ?
L'un des premiers efforts qu'on doit faire, c'est avoir une forte volonté politique, la volonté politique d'investir et aussi de prendre des mesures qui permettent leur conservation. Investir en termes de permettre aux populations ou aux utilisations des terres d'avoir les ressources qui vont leur permettre d'apporter soit les engrais, soit le compost, soit la matière organique nécessaire pour restaurer ou réduire les risques de dégradation de ces sols. Et dans ce contexte-là, par exemple, la FAO, avec la Banque mondiale et d'autres partenaires, on avait aidé en 2008 l'Éthiopie à formuler ce qu'on appelle en anglais « Country Strategic Framework ». Donc c'est un plan d'investissement à l'échelle nationale pour la gestion durable des terres. En juillet 2006, il y a eu un sommet des chefs d'État africains à Abuja qui a conclu à la nécessité d'augmenter le taux d'utilisation des engrais qui est actuellement de moins de 10 kg par hectare à peu près 50 kg par hectare. Mais actuellement, il y a très peu de pays qui ont atteint ce stade-là. On est dans un contexte où beaucoup de pays ont élaboré, adopté des politiques dans le domaine de la modernisation de l'agriculture, dans le domaine du développement rural. Et il faut qu'on arrive aussi avec des outils, des pratiques qui permettent de conserver le sol tout en répondant à ses besoins de modernisation. Par exemple, dans le cadre de l'agriculture de conservation, avec la FAO au niveau de la région, on a un certain nombre de projets. On a appuyé des pays comme le Kenya ou des opérateurs privés pour acquérir, par exemple, des matériels, des tracteurs ou des outils, des équipements qui permettent de garder le sol bien conservé avec un semis direct, avec une couverture permanente et aussi avec une rotation qui permet de garder la qualité des sols tout en produisant à un niveau très appréciable et en garantissant aussi la qualité de ces sols pour les générations futures. Et il faut aussi qu'on réduise cette pression en augmentant le potentiel ou la disponibilité en emploi au niveau de toute la chaîne de valeur. Et un quatrième aspect, c'est la nécessité de revoir les curriculums pour inclure la notion de gestion des sols d'une façon qui permette vraiment de répondre aux besoins actuels tout en conservant la qualité pour les générations qui viennent. Et là, aujourd'hui, on a des outils informatiques, on a des images satellitaires, on a des options qui permettent de cartographier les sols, de définir leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut produire dessus. Mais il faut aussi des investissements, il faut aussi des formations. Et dans ce cadre-là, la FAO, avec d'autres partenaires comme l'Union européenne, est en train d'organiser ce qu'on appelle des formations sur la cartographie numérique des sols pour permettre de capitaliser sur les données qui existaient, mais de les réactualiser en tenant compte du fonctionnement actuel des sols dans un contexte où le climat change, dans un contexte aussi où les besoins des utilisateurs et puis de l'homme sont en train d'évoluer.
Selon vous, quels sont les défis majeurs en matière de gestion et de préservation des sols dans la région ?
Le premier, c'est renforcer vraiment la volonté politique et le soutien politique pour une meilleure gestion des terres, mais qui doit se traduire de l'adoption des résolutions à la mise en œuvre avec les ressources nécessaires pour une action effective de conservation, de préservation et de meilleure gestion des terres. Le deuxième aspect, c'est le contexte du changement climatique. Parce qu'au niveau des sols, ce n'est plus vraiment quelque chose qui est considéré comme probable, c'est des choses qui arrivent. Les sols sont de plus en plus dénudés, exposés à l'ensoleillement, avec des pertes en biodiversité et un certain nombre de caractéristiques qui sont en train de se dégrader. Donc, comment faire, comment gérer les sols, comment les utiliser dans le contexte des changements climatiques, c'est un défi important. Par exemple, au Burkina, vous avez la zone nord-ouest du Burkina qui s'appelle le Yatenga. C'est une zone qui est très dense, qui était une zone verte dans les années 45, qui a été complètement désertifiée, dégradée. Mais aujourd'hui, c'est une zone du fait de l'investissement du secteur privé au niveau individuel des paysans ou en coopérative. Ils ont restauré leurs terres, ils produisent du riz, ils produisent des légumes qui alimentent la capitale. Contre toute logique normale, s'il n'y avait pas ce type d'investissement et s'il n'y avait pas cette conscience dans la nécessité vraiment de gérer les sols de façon durable. Réduire la pression, c'est réduire le niveau de service dont on a besoin. L'un des enjeux, c'est comment répondre de façon innovative et flexible aux besoins d'emploi d'une jeunesse. Les chiffres montrent que d'ici 2050, on aura plus de 5 à 10 millions de jeunes qui viendront sur le marché du travail chaque année. L'agriculture est considérée comme un domaine potentiel d'emploi, mais il faut que cette agriculture se fasse selon une chaîne de valeur pour réduire la pression directe sur les sols et permettre le développement de l'économie tout en préservant les sols et en maintenant les écosystèmes et leurs services.
Et enfin, que se passerait-il si des mesures n'étaient pas prises rapidement?
Dans certaines situations où on assiste à des taux élevés de dégradation du fait de l'érosion hydrique, du fait de l'érosion éolienne ou du fait des pollutions humaines, on va arriver à une situation où les sols vont se dégrader, leur qualité va changer, leur fonctionnement va changer, donc ils vont mourir entre guillemets. Le second aspect, si des mesures ne sont pas prises, c'est l'impact que ça aura sur la sécurité alimentaire, en termes même de la diversité des ressources dont les populations en milieu rural, par exemple, bénéficient. Lorsque le sol fonctionne bien, la végétation est en place. Vous voyez, par exemple, dans beaucoup de villages à travers le continent, ils ont ce qu'ils appellent des forêts sacrées. Et ces forêts sacrées, c'est là où il y a une biodiversité élevée. Et c'est là où ils peuvent trouver des plantes médicinales, ils peuvent trouver des plantes alimentaires, etc., etc. Et c'est là aussi où le sol est le mieux conservé. Si les sols sont dégradés, ils sont dénudés, on aura plus dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui va contribuer à augmenter les risques donc de changement climatique en termes d'élévation de la température. Et si ces sols, par exemple les sols irrigués, ne sont pas bien gérés, ces sols-là, ils vont produire plus de méthane. Il est connu que l'agriculture est aussi un domaine où la libération du méthane est élevée, conduisant aussi au réchauffement climatique. Ce qui est bien quand même, c'est que de plus en plus la conscience humaine au niveau international, au niveau du continent, on voit l'utilisation des sols dans une perspective de l'utilisation des paysages. Donc, ce qui permet de prendre en compte les écosystèmes et leur fonctionnement, et d'inclure aussi les connaissances traditionnelles qui existent au niveau des zones et d'inclure les nouvelles connaissances que la science a générées dans le domaine de la connaissance des sols. Cette année internationale des sols, c'est vraiment une très bonne opportunité pour mettre en avant tous ces défis, mais aussi mettre en avant les options, les opportunités qu'on a de faire mieux que ce que nous sommes en train de faire en termes de gestion des terres. Et c'est aussi une opportunité de communiquer plus. Parce que si on ne communique pas plus, on ne peut pas faire face de façon durable et inclusive aux défis qui ont été soulignés.
Je vous remercie, M. Tiombiano.
Je vous en prie.